Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Simone Veil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro exceptionnel de Mémoire vive, consacré donc ce 27 janvier 2008 au 63e anniversaire de l'arrivée d'un détachement soviétique dans le camp d'Auschwitz, camp que la plupart des survivants avaient été contraints de quitter quelques jours plus tôt pour ce que l'on appellera plus tard la marche de la mort. Sur place, donc, les soldats de l'armée rouge ne trouvèrent ainsi que quelques milliers de mourants, laissés là faute de temps, et parce que les SS pensaient sans doute que la faim, le froid, la soif ou la maladie feraient leur œuvre rapidement. Le 18 janvier 1945, au soir, vous quittez donc vous-même, Madame Veil, ce camp pour une marche forcée de plus de 70 km sous la menace des fusils des SS. 18 janvier 45 au soir, quel souvenir vous gardez de ce moment précis de votre sortie du camp?
Oui, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que dès le 18 janvier au matin, nous sommes enfermés dans les dortoirs où nous dormons la nuit, et on se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors il y a les optimistes qui disent peut-être qu'on va rester, d'autres qui disent ils vont tous nous exterminer, en tout cas on ne sait rien. On ne sait rien, donc c'est l'expectative. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que ma sœur aînée et moi, nous étions assez pessimistes, et que ma mère, qui voulait toujours nous remonter le moral, disait mais non, c'est pas la fin, ils vont pas nous tuer ici. Enfin, on attendait. Et c'était un camp, on était un petit commando, on était très peu de femmes, nous étions 37 femmes, je crois. On était ensemble et on a attendu toute la journée. Et c'est vers le soir, quand il faisait déjà nuit, qu'on est parti en convoi. Ce commando étant d'abord passé par Auschwitz pour récupérer tous ceux qui étaient à Auschwitz et partir avec eux. Et d'Auschwitz, on a commencé à marcher au milieu de la nuit. Il neigeait, pas trop fort, mais il y avait tout de même de neige partout. Nous avions pu partir avec une vague couverture et un pain, mais c'est tout ce qu'on avait. Et on a marché pendant 3 jours comme ça, jusqu'à Gleiwitz. Alors Gleiwitz a été un point de rencontre tout à fait extraordinaire, parce qu'il y avait d'abord une grande partie de ceux qui étaient à Auschwitz, les différents camps d'Auschwitz, Monowitz, et puis il y avait aussi des petits camps autour même de Gleiwitz, et tout le monde s'est retrouvé là. Ce qui fait que c'était un espèce de spectacle de Dante, absolument. Les quelques femmes que nous étions, on avait très peu, ont été plutôt privilégiées, parce que les SS ont eu besoin de nous pour faire la cuisine des SS. Il n'est pas question de faire la cuisine pour les autres, et on a pu on volait un peu, se nourrir, et puis il faisait chaud dans la pièce où on était, alors que les autres, on avait de l'eau. Or, à Gleiwitz, très vite, l'eau a manqué complètement, donc c'était une situation terrible.
À ce moment-là, vous ne saviez toujours pas, évidemment,
pas du tout.
Ce qui allait se passer après.
Là, on se demandait surtout. Il y a eu d'ailleurs des sélections qui se sont faites. Un certain nombre sont morts, ceux qui étaient déjà fatigués sur la route et qui sont morts là, parce qu'on est resté, beaucoup sont restés sans manger, sans boire. Et puis qu'il y avait en même temps un mélange très grand qu'on n'avait pas du tout vécu, nous par exemple à Birkenau, à Auschwitz, qui était le mélange de ceux qui étaient déportés depuis très longtemps, qui étaient devenus des capots, qui étaient devenus des lagers Alt-Ester, et qui eux avaient une espèce de richesse. Ils avaient, je ne sais pas comment, cumulé un peu d'argent, et il y avait cette espèce d'affrontement. Et pour les jeunes femmes que nous étions, je dois dire, j'en ai rarement parlé, mais c'était épouvantable, parce que nous étions très très peu de femmes, que ces hommes avaient pour le sentiment qu'au fond ils allaient tous mourir. Et donc ils étaient à chercher des femmes en essayant de nous tenter par une quantité de choses, ou de faire pression, ou même de nous violer.
L'état d'esprit des SS à ce moment-là, on sentait que c'était...
On en voyait très peu. On en voyait très peu. Ils étaient dans leur cuisine, ils étaient réfugiés dans leur coin. Il y avait des barbelés partout, donc on ne pouvait pas s'évader. Encore qu'un certain nombre, soit déjà sur la route, avaient commencé à s'évader. Et surtout, ceux qui étaient polonais, qui connaissaient la région, un certain nombre sont partis, certains ont été repris d'ailleurs, et d'autres n'ont pas été repris.
Et beaucoup de victimes évidemment pendant ces marches.
Beaucoup de victimes pendant les marches.
Achevées.
Moi je dois dire que quand je vois maman, l'état dans lequel elle était, je n'en reviens pas qu'elle soit arrivée jusqu'au bout. Mais on était obligés de la protéger, parce que comme elle marchait lentement, les gens s'accrochaient à elle, et nous ne pouvions pas, ces deux filles, nous ne pouvions pas accepter que maman qui était déjà tellement malade, tellement fatiguée, étant en plus à supporter des gens qui s'accrochaient.
Pourquoi devait-elle, pourquoi on s'accrochait à elle?
Pour essayer, parce qu'eux-mêmes étaient encore plus... ils avaient le sentiment, enfin beaucoup sont tombés en route énormément, et donc ils cherchaient n'importe qui à s'accrocher. Alors quand on était valide et qu'on allait assez vite, c'était pas possible, mais maman était toujours un peu leur... et comme elle était très bonne, elle voulait jamais essayer de simplement empêcher qu'elle soit empêchée de marcher en soutenant d'autres.
Parce que celui qui tombait là restait dans la neige et...
Ça, quand on tombait, c'était fini. Quand on tombait, c'est fini. D'abord, très vite, on était tout de même très encadrés par les SS ou par des soldats, parce qu'il n'y avait plus assez de SS à ce moment-là, par des soldats allemands. Et puis, dès qu'ils voyaient quelqu'un par terre, il achevait. Enfin, c'était fini. D'ailleurs, je dois dire que même s'il n'avait pas été achevé par les SS ou les soldats, puisqu'il y avait un certain nombre de soldats qui n'étaient pas des SS à ce moment-là, ils avaient besoin d'hommes dans l'armée, et donc il y avait des vieux, quelquefois des vieux soldats qui nous encadraient en plus, mais une fois qu'on était par terre, c'était fini.
Vous marchiez silencieuse ou vous échangiez, vous parliez, vous aviez...
On était trop fatigués. On était trop fatigués, on ne pouvait pas parler. On conservait toutes ses forces simplement pour marcher et aussi pour s'encourager, comme nous étions toutes les trois et que vraiment on est tout le temps restés ensemble. On essayait de s'encourager les unes les autres. Et puis on se demandait, on ne savait pas du tout où on allait, donc on ne savait pas pendant combien de temps on marcherait comme ça.
Finalement, arrivé donc à Bergen-Belsen.
Oui. Et là, on est arrivé à Gleiwitz. À Gleiwitz, on est resté 2-3 jours. Il y a eu d'ailleurs des sélections. Et puis, on est monté dans des trains qui étaient... Nous étions un groupe de femmes très petit et on est reparti donc aussi avec relativement très peu de femmes, toujours très peu de femmes. Il y avait un groupe de femmes tziganes qui nous avaient rejoints, mais c'est très peu. On est parti dans un train de à peu près 2000 personnes, je crois, qui étaient sur Dora. Enfin, d'abord Mauthausen était plein, c'était des wagons à bois, donc très bas, et notamment dans le wagon où il y avait, enfin ce wagon où il y avait à la fois des tziganes et des juives, les tziganes essayaient tout le temps de nous basculer de l'autre côté du train, sur la voie, pour avoir plus de place, parce qu'on était tellement serrés les unes contre les autres, et ma sœur avait toujours gardé, quand elle est morte il y a déjà longtemps, elle avait toujours gardé les cicatrices comme ça qu'elle avait eues, de femmes tziganes essayant de la pousser hors du train. Et puis il faisait très froid, alors là, plus du tout à manger. Alors quand on a d'abord traversé la Tchécoslovaquie, c'est très, très frappant vraiment, parce qu'à l'entrée, il y avait des moments près de Prague où la voie passe assez près des maisons, et les gens nous envoyaient à manger, ont essayé vraiment de nous aider, quelquefois on le recevait dans les wagons, quelquefois pas. Mais alors au moment même où on franchit la France sur la frontière vers l'Autriche, ça a été fini, puisque c'est un train qui est parti d'abord pour... Mauthausen, il n'y avait pas de place. On est donc reparti et on a été à Dora. Alors à Dora, c'est resté d'ailleurs dans les archives. Il y a des historiens qui m'ont écrit à ce sujet en disant on a vu qu'il y avait quelques Françaises qui étaient passées par Dora. C'est consigné dans les livres, enfin dans les registres, parce qu'au fond les Allemands tenaient beaucoup d'archives. Et récemment encore, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit je vous ai rencontré à Dora. Car les Français ont su qu'il y avait 5 femmes françaises. Nous étions toutes les 3 plus 2 amis qui étaient avec nous, enfin, qu'on avait connu au camp. Et ils ont appris un peu par hasard qu'il y avait des Françaises et ils sont venus nous apporter à manger. Ce qui était courageux, nous étions restés, tous les hommes qui étaient dans le convoi, enfin tous les hommes, la moitié étaient morts en route quand même. Et dans chaque gare, on s'arrêtait, il y avait les cadavres qu'on était obligés, enfin qui étaient sortis du camp. Avec un souvenir, je dois dire, en Allemagne très souvent, au lieu de passage à niveau souterrain, ce sont au-dessus des ponts. Et donc plusieurs fois, j'ai vu tout de même des gens qui regardaient ce qu'il y avait dans le train et qui pleurait, tellement c'était épouvantable comme spectacle. Alors à Dora, les hommes qui étaient avec nous sont tous restés, enfin il en restait 1000 environ, la moitié, et les femmes, nous sommes reparties au bout de 2 ou 3 jours au Bergen-Belsen.
Où là, mais, vous avez donc attendu, alors, les, si je puis dire,
Français,
l'armée britannique.
Les Français qui ont su que nous étions là, et qui s'en souviennent d'ailleurs, certains, se sont fait battre pour nous avoir apporté à manger, mais on nous a laissé la nourriture. Et dans la nuit où nous sommes arrivés à Doha, il y a une femme, une des femmes tziganes d'ailleurs, qui a mis au monde un enfant vivant, mais l'enfant était tué tout de suite.
Alors, 15 avril 45, vous êtes enfin libéré donc de...
Oui, il faut dire un mot de Bergen-Belsen.
Voilà, par l'armée britannique.
Bergen-Belsen, ça a été l'horreur.
Oui. Combien de temps ça a duré,
Bergen-Belsen? Mais nous arrivions là fin janvier.
Oui, depuis, donc jusqu'au
15 avril.
Tout l'hiver.
Et Bergen-Belsen, qui était en fait prévu pour être un camp plutôt privilégié au départ. Il y avait des femmes de prisonniers, il y avait des personnalités, il y avait des juifs qui étaient de nationalités de pays alliés à l'Allemagne. Et puis c'est devenu tout d'un coup comme les Allemands, comme les Soviétiques ont avancé beaucoup venant de l'Est. Et par ailleurs, il y avait la poussée aussi de l'armée américaine et de l'armée anglaise, puisque Bergen-Belsen a été libéré par les Anglais. Bergen-Belsen est devenu un endroit épouvantable, alors que ce n'était pas du tout prévu. C'est le typhus.
Surpopulation.
C'est le typhus, la surpopulation, et... le typhus, énormément de typhus. Presque tout le monde a eu le typhus. La faim.
Et là, toujours des conditions de camp.
Eu vraiment du cannibalisme. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on m'a affirmé. Il y a eu du cannibalisme. Et puis, il n'y avait plus d'eau du tout. Alors, il y avait quelques mares qui servaient pour tout, enfin, et qui était juste la seule eau qu'il y avait dans le camp, et on buvait une eau, et c'est comme ça que tous les gens sont tombés malades.
Et vous, en tant que femme, vous arriviez malgré tout à vous défendre dans cet univers où finalement les rapports de force étaient...
J'ai eu à ce moment-là de la chance. J'avais été très protégée, et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais été dans un petit commando où la vie était plus facile, par une femme qui était la chef du camp, mais qui était une prostituée polonaise, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et qui m'a toujours protégée, ce qui fait que j'étais partie dans ce petit commando quand j'étais à Auschwitz, avec naturellement maman et ma sœur, et je l'ai rencontrée à nouveau quand je suis arrivée à Bergen-Belsen, et elle m'a fait travailler à la cuisine. Alors évidemment, travailler dans les cuisines, c'était toujours un avantage, et je pouvais tout de même apporter un peu à manger à ma sœur et à ma mère.
Alors on passe à ce fameux 15 avril 45, vous êtes libéré enfin donc par l'armée britannique, vous êtes frappé, dites-vous, par la stupeur horrifiée des soldats qui découvrent les cadavres accumulés. On songe évidemment aux fameuses et terribles images de ces bulldozers de Belsen avec lesquels les Britanniques poussaient les corps pour éviter la propagation des épidémies. Là, vous vous dites quand même, à ce moment-là, c'est la véritable libération. Vous avez conscience de ça pour
vous ?
Oui,
absolument. Absolument. Et ma sœur, par exemple, qui voulait absolument se raser les cheveux parce qu'elle avait plein de crocs. Je lui dis, on rentre en France, surtout, c'est pas le moment de te raser complètement les cheveux. Je lui ai donné le courage. Elle était très malade. Et maman était morte trois semaines avant. Et le camp était dans un tel état qu'en réalité, les Anglais ont brûlé toutes les baraques. On nous a mis dans des casernes qui étaient, je crois, celles des 11-16 Hongrois. Mais on a été en même temps, je veux dire, les Anglais n'ont pas su réagir du tout. D'ailleurs, c'est si vrai que le général qui avait libéré le camp et qui, normalement, on avait la responsabilité, a demandé à être déchargé de ça et à partir encore au front. La guerre n'était pas encore
complètement. Pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas...
Parce que les Anglais n'ont pas réagi du tout. Ouais. Pour eux, ils sont restés comme ça. Ils ne se sont pas du tout rendus compte à quel point on était malade, qu'on avait besoin de médecins, de soins, d'une nourriture particulière. On nous a donné naturellement des rations militaires, donc beaucoup sont morts de dysenterie. Et puis surtout, ils ont complètement été, ils n'ont pas su du tout improviser. Et alors pour nous, c'était très très pénible parce qu'ils ont mobilisé des petites jeunes filles allemandes qui sont venues, qui elles étaient bien. C'est une région où la guerre était arrivée juste à ce moment-là, et c'est une région où il y a de l'agriculture, l'élevage, et qui nous prenaient de très haut. Et nous n'avons rien à manger, et elles était très bien nourri. Les Anglais ont complètement... l'armée anglaise, enfin l'organisation, d'ailleurs j'ai reçu ces jours-ci une lettre de quelqu'un qui me dit « J'ai encore des remords de ce que j'ai vu et pas fait...
» Évidemment, ils ne s'attendaient pas sans doute à te confronter à cette situation-là.
C'était la machine, je crois que c'était... Non, je crois que les Américains, ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont laissé trop de liberté à tout le monde. Et que peut-être il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont trop mangé ou n'importe quoi. Mais alors les Anglais, eux, ils n'ont rien fait. Ils n'étaient pas du tout organisés, ça ne venait pas. Et pas par la faute de ceux qui étaient sur les terrains, qui se rendaient compte, mais parce que ils ont été tellement décontenancés par ce spectacle épouvantable. Simplement, ils ont effectivement, ils nous ont mis dans ailleurs parce que les baraques étaient, c'était impossible d'y rester.
Alors vous aviez donc été libéré le 15 avril et vous ne rentrez en France qu'à la fin du mois de mai, donc le 23 mai. Que dire de ce retour?
Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y avait un stalag, pas loin de Bergen-Belsen. Il y avait des soldats français qui étaient prisonniers de guerre et qui très vite ont appris qu'il y avait des femmes françaises qui étaient là et qui sont venues. Et que c'est peut-être grâce à eux, à ce qu'ils ont essayé de faire pour nous, ou ce qu'ils ont fait, que certaines d'entre nous ont réchappé, parce qu'il y a eu encore énormément de morts après la libération, parce qu'ils ont essayé de nous apporter à manger, une nourriture qu'on puisse manger, parce qu'ils nous ont apporté des cigarettes avec lesquelles on faisait du troc. Moi, je suis sortie, on était en principe complètement enfermés, on n'avait pas le droit de sortir du camp pour des raisons de quarantaine. Moi, je suis sortie avec une amie et on allait, comme on avait les cigarettes apportées par les soldats français, on les a troquées contre du lait. Ma sœur était très mal, ne pouvait rien manger d'eau, ne pouvait rien absorber. Et vraiment, pour nous, ils ont été un appui très, très sérieux. Et ils ont été libérés. Simplement, on a regretté, nous, qu'ils retournent en France bien avant nous. Et d'ailleurs, certains ont essayé de rester. On dit, mais non, il faut que ces femmes sont très malades, il faut qu'on parte. Et l'ordre, c'était l'ordre. Ils sont rentrés. Même un médecin qui était avec eux a voulu rester et n'a pas eu la possibilité de rester pour nous soigner.
Un mot sur ce qu'on entend souvent dire de la part des rescapés, cette incompréhension au retour. Vous avez souvent souligné l'importance des témoignages des rescapés et cette difficulté qu'il y a à transmettre, à dire quelque chose.
Mais oui, parce que là, quand je vous parle, par exemple, quand on prend la décision de dire les déportés sont restés, on ramène d'autres, et puis on est resté vraiment très très tard. Nous sommes rentrés ensuite, d'abord ces soldats sont partis en avion, alors que nous sommes rentrés en 5 journées de camion, des camions où on était entassés, on n'était même pas assis dans les camions ni rien, on était à l'arrière. On a fait un voyage absolument épouvantable, il n'y avait aucune conscience, et je crois que les officiers qui étaient là, qui étaient chargés, il y avait 2 officiers français, surtout, et je crois qu'ils n'ont pas du tout, je crois qu'ils ont très bien vu ce qui se passait, mais qu'en définitive, ils n'ont pas été en état de dire si on veut avoir encore des rescapés qui rentrent, il faut s'en occuper.
Après la guerre, difficulté aussi par rapport aux autres, à l'environnement,
c'est la même difficulté, c'est déjà une forme de négation de dire de ne pas vouloir savoir. Et alors, il y avait ceux qui ne voulaient pas savoir parce que ce qu'on disait était tellement épouvantable que les gens, ce qui était vrai, qui était pour nous tout à fait en dessous de la réalité, les gens n'arrivaient pas à nous croire parce que ça, on le comprend. On dise tous les gens qui arrivaient à Auschwitz, la plupart allaient tout de suite à la chambre à gaz. C'est difficile à accepter, à comprendre. Simplement, quand il y avait des familles et qu'ils voyaient que leurs enfants étaient que leurs enfants avaient été déportés, ils commençaient à le croire. Mais sinon, il y avait une très grande méfiance. Une de mes sœurs qui a été déportée comme résistante a eu le même sentiment, mais moins, parce qu'on les a tout de même glorifiés, remerciés un peu. Même pour eux, c'était très difficile de parler.
Oui. Il y a peut-être dans cette difficulté aussi le fait qu'il y a eu une atteinte à la conscience humaine, à l'humanité même de la personne, comme s'il y avait une atteinte ontologique. C'est peut-être, quand on vivait dans le camp, est-ce que c'est peut-être ça qui est pratiquement impossible à traduire, enfin très difficile à transmettre, la sensation d'être dans cet état de déshumanisation?
Je ne pense pas du tout. Je pense que c'était un refus d'entendre, soit parce que c'était tellement épouvantable qu'on ne le croyait pas et qu'on pensait qu'on exagérait, alors que c'était clair, il n'y avait plus un enfant, on était dans un état épouvantable et que beaucoup de gens l'ont vu. Mais je crois que c'était insupportable. Et même quand on a retrouvé de la famille, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, mais il y avait tout de même parmi nous un certain nombre de jeunes qui étaient étrangers, dont toute la famille avait été exterminée, qui n'avaient plus personne, et qui ont été en général très très courageux au retour, et qui ont refait leur vie en partant de rien, en n'ayant plus rien. Mais quand on avait de la famille, je crois que pour nos proches, c'était insupportable. C'est vrai. Quand on le racontait, ils ne le supportaient pas. Je pense souvent à un exemple dans ceux qui sont devenus ma belle famille, et je voyais en définitive n'ont jamais aimé qu'on en parle.
63 ans après, Simone Veil, vous avez l'impression que maintenant on a entendu, pas suffisamment forcément, mais en partie entendu ce témoignage.
Il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu tout de même de très beaux documentaires. Et je parle des documentaires parce que moi, il n'y a aucun des films que je trouve acceptable. Enfin, ils me choquent tous. Je crois que c'est très très difficile de représenter le camp, mais qu'il y a eu au départ tout de même beaucoup de choses qui ont été tournées, notamment à Bergen-Belsen, qui sont absolument épouvantables, mais qui rendent compte parfaitement de l'état dans lequel nous étions.
Dans ces témoignages maintenant, vous le dites aussi dans plusieurs de vos interventions, ces témoignages vont, par la force des choses, s'achever. La phase de témoignage va s'achever. Ce sont les historiens qui vont reprendre, si je puis dire, le questionnement. Est-ce qu'on peut encore avancer par l'histoire ?
Oui, je crois que l'histoire a encore beaucoup de choses à dire. Parce que d'abord, ce qui est normal, le regard de l'historien, ou plutôt la science de l'historien est différente. Il a toujours fallu faire la différence entre les témoignages et les historiens. En même temps, je pense que les historiens maintenant sont tout de même intéressés par les témoignages parce qu'ils les confrontent, ils regardent, bon, et donc ils font un travail d'historien sérieux. Mais au départ, on a eu beaucoup de mal. Moi, je me souviens, il y a eu un grand, c'était Madame Arweiler, qui était à l'époque recteur, et quand il y a eu l'affaire Forisson, elle a décidé qu'à la Sorbonne, il y aurait un grand colloque, et elle avait souhaité que je sois invitée à ce colloque pour parler des choses. Et il y a un historien que je ne nommerai pas qui s'est opposé absolument à ce que le discours que j'ai fait ce jour-là, que je crois que je disais beaucoup de choses, soit intégré en disant non, les témoins ne disent jamais la vérité. Alors il y a tout de même une chose qu'il faut espérer, c'est que comment est-ce que, au cours de l'histoire, depuis des siècles, comment est-ce que les historiens travaillent s'ils n'écoutent pas les gens qui ont participé, qui ont été présents. Il faut tout de même des gens qui racontent ce qui s'est passé. Alors après, il faut confronter les témoins, voir ce qui a été exagéré, ce qui a été sous-estimé, comment ça a été pris. Mais je trouve que c'est une façon absurde d'aborder le problème, parce que si on n'a pas les témoins, on n'aura que les papiers officiels des Allemands.
Encore un mot, Simone Veil, par rapport à cette période qui s'achève maintenant, et l'émission aussi. Risque de banalisation, à votre avis, encore de la Shoah, sont encore aujourd'hui présents ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, avec le temps qui est passé, les nouvelles générations s'y intéressent beaucoup. En France, il y a eu un très très grand effort qui a été fait depuis quelques années par l'éducation nationale, par les professeurs qui sont beaucoup investis. Beaucoup emmènent leurs élèves à Auschwitz. Et s'ils ne le font pas, en tout cas, il y a vraiment un enseignement important sur ces questions. Et je crois qu'à cet égard, ça a été très très important. Et puis je pense que si vous voulez, pour une troisième génération, c'est plus facile d'entendre parler, parce que même quand on a encore une sensibilité, parce qu'on a eu des arrière-grands-parents ou des grands-parents qui ont été déportés, c'est pas du tout la même chose que quand il s'agit de ses parents. Et donc ils l'écoutent et ça les intéresse. Il reste encore quelques déportés qui vont d'ailleurs accompagner des élèves à Auschwitz. Il y a déportés aussi qui ont enregistré des témoignages pour qu'on puisse visiter Auschwitz en ayant quelqu'un qui vous accompagne et qui a été enregistré par Raphaël Israël et qui est très, très intéressant, parce que visiter Auschwitz uniquement pour voir des baraques sans savoir ce que ça a été, avec un camp qu'on a pour partie démoli, évidemment ça ne dit plus grand chose, mais que de le visiter comme si c'était avec un déporté qui a fait le texte, je crois que c'est très important.
Merci beaucoup, Simone Veil. Notre émission est maintenant terminée. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de Mémoire Vive.